Donc on va démarrer ce que Foucault appelait le vif du sujet, le cœur du sujet, je ne sais plus quoi tout à l'heure. En tout cas, qui est le thème de notre week-end et qui est peut-être davantage que le thème de notre week-end, le thème de vos réflexions très habituelles et très récurrentes peut-être pour votre travail, pour votre entreprise, pour toute cette dimension-là de votre vie. Voilà, j'espère que ce sera une première marche seulement d'un grand escalier sur le sujet pour moi comme pour vous. Je dis pour moi parce que donc vous avez découvert, vous le savez déjà, qu'au sanctuaire de Montlignon, on porte un projet social qui est complètement au service, je dirais, de la doctrine sociale de l'Église. Et donc nous aussi, nous avons un petit peu à nous investir dans ce domaine-là. On le fait à travers les ateliers Buguet. On voudrait le faire de manière plus large, au sens où les ateliers Buguet ont leur objectif propre et leur existence propre. Il ne s'agit pas de faire des artisans qui sont là forcément des chrétiens. Par contre, nous, au sanctuaire de Montlignon, on voudrait développer, on le fait depuis quelques années déjà, une réflexion régulière sur la pensée sociale de l'Église. On a fait des colloques, le prochain est pile dans un an autour de la Saint-Joseph d'ailleurs. Avec cette particularité-là à Montlignon, qui va complètement dans le sens d'ailleurs de l'écologie intégrale qu'on va davantage découvrir ce week-end, c'est qu'on a deux facettes qu'on veut vraiment réunir, au sens qu'on a une dimension spirituelle très importante d'eschatologie. Pour ceux qui étaient là les deux derniers week-ends Gelsar à Montlignon, on a évoqué davantage cet aspect-là, donc la question des fins dernières, la communion des saints, le purgatoire, la prière pour les défunts, la résurrection de la chair. Ça, c'était les sujets des années précédentes. Et là, aujourd'hui, on s'attaque davantage au sujet social. Mais à Montlignon, nous ne voulons pas en fait traiter de sujets séparément. Nous voulons travailler à intégrer l'un avec l'autre, à savoir que ceux qui viennent prier pour les défunts découvrent aussi la dimension importante du travail dans la vie. Ceux qui viennent faire du tourisme industriel ou artisanal découvrent aussi que ce qu'on fait dans la vie concrètement a du sens pour l'éternité. Et donc qu'il y ait un dialogue, un aller-retour entre la dimension spirituelle et la dimension sociale. Pour caricaturer un petit peu, et c'est une caricature, mais aujourd'hui, on peut dire un petit peu, on a deux sortes de chrétiens. On a les chrétiens spirituels et les chrétiens sociaux. Grosso modo, on a les chrétiens qui prient pour les âmes purgatoires, et on a les chrétiens engagés dans le secours catholique. Et c'est pas du tout les mêmes, il n'y a pas de communication entre les deux. Il y a ceux qui vont vous dire, l'important c'est le social, c'est le service du frère, c'est ouvrir sa porte, c'est les étrangers, c'est... qui sont sensibles à cette dimension-là davantage, et qui pour eux est primordiale. Et puis il y a les autres pour qui ça va être la prière, le chapelet, l'adoration eucharistique, les pèlerinages, et c'est pas du tout les mêmes chrétiens. Et ça pose un vrai problème, parce que les deux sont vrais, et même aujourd'hui on a l'impression qu'il faut être soit l'un, soit l'autre. Soit on fait du social, soit on fait du spirituel. Et c'est un petit peu un divorce malsain, parce qu'il faudrait unifier au contraire tout ça. Voilà. Et donc on espère, avec ce double projet, pouvoir travailler à cette unification de la foi chrétienne, de la foi et de la pratique, et de la vie chrétienne, et la vie chrétienne dans toutes ses dimensions, y compris le travail. Voilà, c'est un peu nouveau d'avoir à faire ce travail de réunification. Ça fait 100 ans que le sanctuaire existe, qu'il y a une imprimerie et une basilique. Sauf que grosso modo, la question ne se posait pas tellement d'unifier les deux à l'époque où il y avait l'imprimerie, parce que la moitié du village travaillait dans le sanctuaire. Il y avait une impression en tout cas d'unification des deux. Et puis le départ de l'imprimerie nous a obligés à nous poser la question finalement, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on oublie cette dimension sociale, ou est-ce qu'elle fait partie intégrante de l'œuvre de Montlignon ? Est-ce qu'elle fait partie du message de Montlignon ? Si oui, comment, etc. Et donc le projet Atelier Buguet, c'est un projet qui doit s'harmoniser avec la dimension spirituelle et qui doit entrer en dialogue avec pourquoi est-ce qu'on travaille sur la Terre, quel résultat notre travail aura-t-il dans l'éternité ? Est-ce qu'on travaille juste pour avoir du pain aujourd'hui, ou est-ce que notre travail a du sens dans la vie éternelle ? Comment est-ce que la perspective de la vie éternelle va m'aider à organiser mon travail ? Si je suis fait pour la communion des saints, ça veut dire qu'a priori, je suis déjà fait pour la communion avec les autres ici, et donc que dans mon travail, les collaborateurs, le chef, les subordonnés, les clients, les fournisseurs, tout ça, font partie d'une communion des saints quelque part, ou sont appelés à devenir la communion des saints. Voilà, donc la perspective de la vie éternelle nous éclaire sur la façon qu'on a d'organiser notre vie concrète sur la Terre. Et notre vie concrète sur la Terre est justement le support de ce que nous serons dans l'éternité. Je serai dans l'éternité si j'ai passé ma vie à construire des locomotives. On disait tout à l'heure, je sais pas, les locomotives, là. Eh bien, quelque part au ciel, ça va se retrouver. Il n'y a pas de... C'est pas deux mondes différents, la terre et le ciel. Nous serons au ciel ce que nous aurons été sur la terre. Et voilà, donc notre travail a sa place, et puis on va le découvrir aussi. Il faut que je rentre un peu dans mon sujet, mais le travail, c'est une collaboration à la création. Nous sommes, on va le voir, des co-créateurs. Dieu a créé l'univers et a mis l'homme au service de la gestion de cet univers pour accompagner le développement et la croissance. Voilà, croissez, multipliez-vous, recevez la terre et soumettez-la, etc. Voilà. On a cette charge d'être au service d'une création. Et cette création, on parle de la terre et des nouvelles et des cieux nouveaux, est appelée aussi à exister dans l'au-delà. Voilà, nous serons un jour, nous, ressuscités dans la chair, mais l'univers matériel qui nous entoure a aussi son existence au-delà. Ça reste très mystérieux. Mais bref, le travail que nous faisons ici, il n'est pas sans rapport avec la vie éternelle. Donc tout ça a de quoi nous faire réfléchir. Concrètement, on va s'attacher ce week-end, autant que je vais pouvoir le faire pour vous, et vous allez peut-être m'aider, à entendre l'encyclique du pape François, Laudato Si, que certains ont peut-être lu avec plaisir, que d'autres ont peut-être lu avec beaucoup d'efforts et de persévérance, que peut-être d'autres n'ont pas lu. Donc on va en tout cas la lire, pas la lire en entier, mais grosso modo, moi je suis un petit peu un débutant dans l'enseignement de cette matière-là, donc je vous demande votre indulgence. J'ai lu bien sûr l'encyclique, j'ai relu, j'ai travaillé, mais j'en suis pas encore au stade où voilà, j'ai posé le bouquin, j'ai bien tout intégré et je vous fais une conférence là-dessus. J'en suis au stade où, où en le lisant, j'ai des éléments qui me paraissent davantage importants, ou moi qui me frappent peut-être plus, et que je voudrais vous transmettre ou insister là-dessus pour que vous ressortiez avec voilà, quelques idées sur cette encyclique et voir comment elle nous interpelle en fait. Cette encyclique, elle a un double aspect, bon, c'est l'écrit d'un pape, et c'est un écrit qui est pour tout le monde, elle est lisible par des non-chrétiens, le pape a fait en sorte que ce soit le cas. C'est normal parce que c'est une encyclique de doctrine sociale de l'Église. C'est pas une encyclique sur l'écologie au sens où elle fera de nous des petits lutins des bois. Non, c'est pas ça du tout. C'est une encyclique sur l'écologie, effectivement, mais au sens très noble du terme qu'on va découvrir, ou approfondir. Donc elle s'adresse à tous. Et c'est normal donc parce que toute la doctrine sociale de l'Église est organisée pour être audible par tous. La doctrine sociale de l'Église, c'est une partie de la pensée de l'Église, de la théologie de l'Église. C'est une partie de la théologie morale de l'Église, la doctrine sociale de l'Église. Parce que la théologie morale, ce qu'on appelle la morale, c'est ce qui nous fait réfléchir sur l'agir de l'homme. Voilà. La question de la morale, c'est comment est-ce que j'agis en vue de mon bonheur. Tous mes actes engagent ma vie et la vie des autres. Donc la morale, c'est se dire, l'acte humain doit être orienté vers le bonheur, et la morale, c'est de réfléchir sur cette orientation-là. Donc l'agir, c'est la morale, et la doctrine sociale de l'Église réfléchit sur l'agir de l'homme dans différents domaines qui engagent la société, la famille, le travail, la société, la politique, un tas de choses, l'environnement aussi. Et donc ça fait partie de ce corpus-là que l'Église fait exprès de rendre audible, pour la simple raison qu'en fait, la pensée qui est dessus, qui est derrière, c'est une pensée qui est accessible par la seule raison humaine. Bon, l'éclairage de la foi a quand même son importance, et il y a beaucoup d'évocations de la foi chrétienne et l'écriture sainte dans cette encyclique notamment, mais n'empêche que globalement, les notions auxquelles il est fait appel ne font pas nécessairement appel à la foi chrétienne. La dignité de l'homme, le bien commun, la subsidiarité, c'est des choses qu'on peut réfléchir avec des non-chrétiens, bien évidemment, quoi. La preuve, c'est que ceux des artisans buguets qui sont là pour développer un humanisme dans le travail, ils ne sont pas là en tant que chrétiens du tout. Parfois, loin de là même. Mais voilà, donc c'est intéressant de cette encyclique, elle est volontairement tournée pour être audible par tous. Néanmoins, moi je la lis comme prêtre, en tout cas moi je vais essayer de vous la présenter comme prêtre. Vous êtes là en week-end de réflexion, c'est aussi le dimanche des Rameaux, la semaine sainte bientôt, qui va être inaugurée. Et vous avez, enfin, il se trouve, je ne sais pas si c'est une demande finalement, ou ça se fait comme ça, en tout cas, c'est un prêtre qui vous fait ce topo-là. Mais en fait, je suis en train de vous dire que n'importe lequel d'entre nous aurait pu faire ce topo-là. Donc moi, je vais le faire en tant que prêtre, et donc en tant que pasteur, et je vais certainement faire ressortir plus qu'un autre des aspects de vie chrétienne, de vie spirituelle, de vie de conversion. Voilà, c'est plus ça qui va me marquer un petit peu mon discours. Un autre aurait fait une lecture de ça avec vous, sur beaucoup plus axé sur l'environnement, par exemple. C'est marrant de voir comment elle est reçue différemment, cette encyclique. Je me rappelle de quelqu'un qui l'a lu avec beaucoup d'enthousiasme, quelqu'un qui s'occupe d'un parc régional, et qui me dit « Mais c'est génial, le pape il parle comme nous, il parle de zones humides et tout ça, c'est génial !» Ah ouais, mais bon, moi je ne parlerai pas trop de zones humides, mais je parlerai davantage de ce qui concerne nous comme chrétiens, et comme chrétiens dans le travail, parce que vous êtes là pour la plupart en tant que Gadza, et donc avec cette question de porter chrétiennement cette vie de travail. Voilà. Donc on avait trois topos, et il y a 6 chapitres, donc c'est 2 chapitres, plus 2 chapitres, plus 2 chapitres. C'est pas seulement un hasard, c'est aussi que finalement, cette encyclique, elle se découpe bien en 3 fois 2 chapitres. Et donc on va les prendre un peu dans l'ordre. Le premier donc groupe, c'est l'écologie intégrale, de points, un regard scientifique, un regard de foi. Ça correspond grosso modo aux 2 premiers chapitres. Les 2 suivants, quitter le paradigme technocratique par une conversion écologique, ça suit chapitres 3 et 4. Et dernièrement, quelques repères pour l'action, c'est chapitres 5 et 6. Voilà. Et j'essaierai d'agrémenter mon discours et la lecture de l'encyclique par une belle réflexion de Mgr Battu, nouvel évêque de Blois, ainsi qu'un document que j'ai découvert récemment qui s'appelle « La vocation du dirigeant d'entreprise », qui est un document émis par le Conseil pontifical Justice et Paix. Voilà, et j'espère vous donner un peu tout ça de manière digeste. Donc ce qui sera un peu laborieux, c'est que voilà, on va un peu tourner les pages, enfin, moi je vais faire comme ça en tout cas, vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti en lisant aussi, est-ce que j'ai envie de vous faire remarquer, mais ce sera un petit peu... Donc si jamais c'est barbant, vous me dites, vous posez des questions, vous intervenez. Ceux qui l'ont lu et qui l'ont un peu creusé et qui veulent aussi intervenir, n'hésitez pas à enrichir mon discours, bien évidemment. Et puis voilà, on est entre nous, donc... Ça va comme ça, le sujet est à peu près lancé. Donc le premier chapitre est intitulé « Ce qui se passe dans notre maison ». Ça pourrait sembler à première vue le chapitre le moins intéressant. Enfin moi c'est celui que j'ai lu avec avec le moins d'intérêt, je dirais, honnêtement. Parce que c'est le chapitre où on fait un petit peu l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans l'environnement, justement. Donc tous les sujets, voilà, de réchauffement climatique, de pollution, de... d'industrialisation, d'urbanisation, etc. Donc on connaît bien, quoi. On connaît bien et dont on n'a pas tellement envie d'entendre une nouvelle fois un discours. Et puis on se dit, le pape, finalement, pourquoi est-ce qu'il est plus connaisseur qu'un autre sur ce sujet-là. Mais en fait, en le relisant, je me dis, l'enjeu n'est pas d'avoir un discours scientifique. Enfin, moi, je vais faire ressortir un petit peu comment je le dis comme chrétien, quoi. D'abord le titre, ce qui se passe dans notre maison. Le mot de maison, c'est un mot qui engage déjà. Notre maison commune, c'est un mot qui revient plusieurs fois. Quand on parle de la vie éternelle, on parle de la cité sainte, Jérusalem. Voilà. C'est pas une maison, c'est une cité. Mais il y a quelque chose aussi qui doit nous interpeller, nous chrétiens. Ce monde, nous y vivons comme dans une maison que nous construisons, qui est la nôtre, que nous partageons, et pour laquelle nous avons un engagement. Voilà. Donc on ne peut pas finalement ne pas se laisser toucher par le dérèglement de cette maison. En fait, ne peut pas être chrétien celui qui dit « Bon, ras-le-bol d'entendre parler du réchauffement climatique et tout ça, ce qui est mon cas, j'en ai vraiment ras-le-bol. J'arrive pas à me faire vraiment une idée sur la gravité, sur les facteurs, etc. Moi, je suis pas, j'ai pas creusé le sujet. J'ai l'impression parfois qu'on est un peu manipulé par des lobbies, qui font un peu pression pour transmettre une certaine inquiétude. Et... C'est une impression, je ne sais pas si elle est vraie. Voilà. Mais du coup, je ne suis pas, a priori, hyper réceptif de ce discours-là. Mais n'empêche, il y a des choses importantes. Il Donc ce premier chapitre, c'est un regard pas très scientifique, parce que c'est pas hyper scientifique, mais c'est quand même un petit peu l'état des lieux de la situation. Voilà. Alors, quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il ne s'agit pas en fait d'un problème de survie. Il ne s'agit pas de se dire c'est déréglé, ça déconne de partout, si on ne veut pas tous mourir, il faut répondre à la situation. Ça, c'est une vision réductrice en fait de la matière. Ce n'est pas non plus un problème d'idéologie, au sens où pour certains, la nature, c'est hyper important. Discours, grosso modo, discours écolo. C'est pas non plus à cause de ça qu'on... Même si c'est vrai, la nature, c'est important. C'est pas en réponse à une forme d'idéologie qu'on s'intéresse et qu'on se laisse interpeller par ça. En fait, c'est pas un problème de survie, c'est pas un problème d'idéologie. Pour nous, ça doit être un problème moral. Je vous disais, la pensée sociale de l'Église s'intègre dans la théologie morale qui interroge l'homme sur son agir, qui réfléchit sur l'agir de l'homme et ses conséquences pour lui et ses conséquences pour les autres. Donc pour nous, chrétiens, c'est une question morale qui se pose là. Ça veut dire que c'est une question qui engage notre salut aussi. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, je pense, dans ce que nous entendons aujourd'hui. Sur quoi m'a fait prendre conscience cette encyclique du pape, c'est que finalement, cette question de l'environnement, pour nous, c'est une question de morale, donc une question de salut. On ne peut pas laisser de côté cette question de l'environnement, parce qu'on habite dedans, et elle nous engage complètement. Et du coup, changer le monde, parce qu'il s'agit de ça, changer le monde, rien que ça, le pape insiste beaucoup là-dessus, ça implique de changer de comportement et de changer de style de vie. Voilà, pour moi, l'appel de cette encyclique, c'est pas un appel à faire attention à la nature, simplement, etc. C'est un appel à s'interroger fondamentalement sur la cohérence de notre vie. Et ça, le chrétien, il l'entend d'une manière particulière. Il y a plein de gens non chrétiens qui ont lu cette encyclique et qui n'ont pas du tout compris ce que c'était que l'écologie intégrale, peut-être parce qu'ils ne le peuvent pas. L'écologie intégrale, on va le voir, c'est celle qui traite ensemble aussi bien de l'environnement que de l'entreprise, que de la société, de la politique nationale et internationale, que de la famille, etc., que du respect de la vie. Voilà, il y a tout ça. Et donc, pour certains, ils ont approuvé ce que disait le pape parce qu'ils retrouvent dans l'Église quelqu'un qui parle d'écologie, ils sont contents, au sens de l'environnement. Voilà. Et ils n'ont pas forcément vu la cohérence de l'ensemble, ils sont pas forcément sensibles. Mais nous, on doit être sensibles à cette dimension de cohérence. Dans le numéro 5, là, le pape dit notamment « Tout doit se faire sur la base du don des choses faites par Dieu à l'origine. » Vous voyez que, tout en s'adressant à tous, il n'y va quand même pas de main morte quand il s'agit d'affirmer la vérité sur le monde, la vérité sur les choses. Changer de comportement, changer de style de vie ne peut pas se faire. Et nous devons l'entendre aussi, nous chrétiens. Ça engage une conversion spirituelle, c'est chapitre 6. Tout doit se faire sur la base du don des choses faites par Dieu à l'origine. Voilà. Donc nous, on peut l'entendre, on peut se sentir particulièrement responsable de ce changement à opérer dans le monde, parce que nous pouvons, étant chrétiens, nous baser sur le don des choses faites par Dieu à l'origine. Donc on est particulièrement, nous chrétiens, quand même interpellés par cette encyclique. Au numéro 6, je remarque une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème parmi d'autres problèmes. Il y a le problème de l'environnement, il y a le problème de l'Église, il y a le problème de je sais pas quoi, enfin, il y a plein de problèmes dans la vie. En fait, le pape fait comprendre que cette question de l'écologie n'est pas un problème parmi d'autres, mais elle est le problème. Elle est notre problème global. Voilà, ça on va l'approfondir. Là je suis encore dans l'introduction, hein, donc ça, c'est un peu ce qui annonce la suite. Au numéro 8, le pape réaffirme fortement la dimension morale de cette question. Là, j'ai pas pris de note. Que les hommes dégradent l'intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la terre de ses forêts naturelles ou en détruisant les zones humides, on en a parlé. Que les hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies en contaminant les eaux, le sol, l'air et l'environnement par des substances polluantes, tout cela, ce sont des péchés. Voilà. Il ne s'agit pas de dire, zut, il y a un problème d'environnement, etc. On doit se sentir interpellé, voilà, moralement, un peu la question de Dieu à Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai confié? La création a été confiée par Dieu à l'homme. On constate qu'on la gère mal. On doit se dire, il y a quelque chose qui engage, qui nous engage profondément, quoi. C'est pas que les autres qui la gèrent mal, on est tous un peu imprégnés de, par la force des choses, plus ou moins consciemment, de tous les facteurs qui, de consommation, qui font que la planète est mal utilisée et mal gouvernée et mal accompagnée finalement, mal servie par nous qui en sommes les serviteurs. Donc on doit se laisser interroger, tous ces dérèglements-là sont liés au péché, à notre péché. Pas le péché que des autres, mais aussi le nôtre. Donc il y a une dimension morale très importante d'emblée, quoi. Donc il ne s'agit pas de s'attaquer seulement aux symptômes. Ouais, il fait trop chaud, ou trop froid, je sais pas quoi. Il pleut trop, la mer est trop haute, tout ça. Bon, c'est d'accord. Il faut s'attaquer aux causes. Et si on va au bout, les causes sont spirituelles. Donc il va s'agir d'une conversion profonde. Il faut être prêt à ça pour aller vraiment, pour entendre vraiment cette encyclique et ce message de l'Église. Il faut s'engager vraiment dans une démarche de conversion qui engage toute notre personne. Au numéro 11, on n'en reste pas au niveau scientifique seulement, mais avec saint François d'Assise, qui loué sois-tu, c'est le titre de cette encyclique, parce que c'est le titre aussi du fameux poème Cantique de la création de saint François d'Assise. Mais donc avec saint François d'Assise, on transcende la question. On ne va pas s'intéresser seulement à un regard scientifique, on va s'interroger quand même sur le lien entre la création et le créateur, évidemment. Le pape dit « J'espère que cette lettre encyclique qui s'ajoute au magistère social de l'Église nous aidera à reconnaître la grandeur, l'urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. » Après, il décrit son plan, etc. Pour revenir sur cette question un peu de péché, une petite parenthèse, pour faire le lien entre la situation dans laquelle nous sommes et le péché, revenons un petit peu à la Genèse. Vous rappelez un petit peu le récit de la chute du péché originel d'Adam et Ève, qui dévoile les conséquences immédiates du péché. Adam et Ève vivaient en harmonie avec Dieu et avec la création, ils étaient chargés de gouverner la création, elle était confiée à l'homme qui vivait en harmonie avec Dieu. Et l'homme était chargé de se multiplier, etc., et aussi de travailler la terre. Le fait que ça devienne pénible, c'est la conséquence du péché originel, mais le travail appartient à l'état de l'homme dans le paradis terrestre. Donc la dimension de travail, d'accompagner, qui est en fait une collaboration à la création de l'œuvre de Dieu, appartient déjà à l'être de l'homme avant le péché. Mais le péché désorganise tout ça parce qu'il désorganise la relation avec Dieu. Vous rappelez que Adam et Ève se cachent dans le paradis après le péché. Donc on a un premier niveau de désorganisation, c'est la relation entre l'homme et Dieu. On a une désorganisation de la relation aussi entre l'homme et la femme, qui se cachent l'un à l'autre, donc aussi la relation entre les hommes qui est désorganisée. Et par ça aussi, une désorganisation de l'harmonie qu'il y avait entre la création et l'homme, qui faisait partie de la création, et à la fois qu'on était la tête, puisqu'elle lui avait été confiée. Voilà. Donc c'est... On vit finalement dans une situation qui est marquée par ce désordre, et ce désordre est vraiment pas un problème de je sais pas, c'est pas, y a pas un vice de création à la base ou je sais pas quoi, ça s'est mis à mal tourner. C'est lié à un phénomène spirituel. Et donc la cause, la guérison de ça, ce sera un phénomène spirituel. Alors, je passe un petit peu. Donc après on arrive au premier chapitre, après l'introduction. Qui plante un peu le décor. Premier chapitre, c'est ce qui se passe dans la maison. Voilà. Dans notre maison. Et donc le pape dit, voilà pourquoi, avant de voir comment la foi apporte de nouvelles motivations et de nouvelles exigences face au monde dont nous faisons partie, je propose de nous arrêter brièvement pour considérer ce qui se passe dans notre maison commune. Il met l'accent notamment sur, parce que des changements dans la nature, il y en a eu partout, tout le temps. Il fait remarquer, comme d'autres l'ont fait avant lui, de la rapidité que les actions humaines imposent aujourd'hui à cette dynamique de changement. Alors, il y a des dynamiques de systèmes complexes qui, dans le monde avec des changements réguliers, mais ce qui frappe aujourd'hui, c'est la rapidité que les actions humaines imposent aujourd'hui et qui contraste avec la lenteur naturelle de l'évolution biologique. Voilà. On n'a pas besoin d'être écolo pour se laisser interroger sur le rapport du rythme de la nature et du rythme qu'on s'impose à nous et à notre industrie. Il devrait y avoir une cohérence entre le rythme de la nature et le rythme de notre activité, aussi industrielle soit-elle. À cela s'ajoute le fait que les objectifs de ce changement rapide et constant ne sont pas nécessairement orientés vers le bien commun. C'est une dimension importante, la perte du sens du bien commun. Ni orientés vers le développement humain, durable et intégral. Le changement est quelque chose de désirable, mais il devient préoccupant quand il en vient à détériorer le monde et la qualité de vie d'une grande partie de l'humanité. Le changement donc qui l'accompagne, c'est bien, mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. L'objectif ici n'est pas de recueillir des informations ni de satisfaire notre curiosité, mais de prendre une douloureuse conscience, d'oser transformer en souffrance personnelle, ça il faut l'entendre, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde, et ainsi de reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Ça c'est le numéro 19. Encore une fois, pas seulement faire l'état des lieux pour de bien commencer, mais le but est de prendre une douloureuse conscience et de transformer ça en souffrance personnelle. Voilà. Ben là, il y a la souffrance de relire encore tout ça. Mais voilà comment le pape nous invite à nous laisser toucher intérieurement par cette question-là. On ne doit pas seulement, comme je le faisais moi, j'avoue, jusqu'à présent, jusqu'à hier à peu près, traiter cette question des problèmes environnementaux que extérieurement. On doit se sentir vraiment accusé en quelque sorte. Il s'agit de péché, prendre conscience, examen de conscience, tout ça. C'est une sorte d'examen de conscience qu'on doit faire et dont on se dit, ça engage mon rapport à Dieu, ça engage ma vie chrétienne, ça engage ce que je suis. Voilà, grand 1, pollution et changement climatique. Il fait l'état des lieux sur la pollution, les ordures, la culture du déchet. Il rappelle que le climat est un bien commun. Donc tout ce qui peut avoir une influence sur le climat, qui est aussi le climat des autres, et doit engager notre réflexion sur le bien commun. On ne doit pas se sentir des individus les uns côté des autres, mais notre action, par le phénomène de la mondialisation et par bien des choses, notre action influe sur l'existence des autres. Nos déchets, notre manière de consommer, notre manière d'utiliser, d'exploiter éventuellement la création, notre manière de travailler, notre manière de parler parfois, de tas de choses, engage les autres. Et on doit apprendre à considérer, nous aussi, cette dimension du bien commun. Le climat est un bien commun. La question de l'eau, etc., la perte de la biodiversité. Là, j'avais noté le paragraphe numéro 42. Il est nécessaire d'investir beaucoup plus dans la recherche pour mieux comprendre le comportement des écosystèmes et analyser adéquatement les divers paramètres de l'impact de toute modification importante de l'environnement. Alors ça, on peut le lire comme étant une invitation pour les plus branchés amoureux de la nature et tout ça, biologistes et compagnie. En fait, ça veut dire plus que ça, à mon avis. Ça veut dire que nous devons apprendre à lire dans la nature. Et pour ça, il y a des études scientifiques qui aident à lire dans la nature, eh bien, grosso modo, les lois de Dieu, les lois qui font que la nature vit, la nature, les lois déposées dans la nature pour qu'elle grandisse et harmonieusement. Il y a comme une école, en fait, moi je lis ça comme ça, il y a comme une école à redécouvrir peut-être, pour que ce que nous faisons quand nous produisons à la chaîne des bouteilles d'eau ou des téléphones, eh bien, qu'il y ait quelque chose qui, dans cette réflexion, cette mise en place de ces processus, quelque chose qui soit mis en place, qui dit finalement, qu'est-ce que dans la nature, il y a quelque chose qui me parle déjà de ça. Quel est le rapport, a priori, entre la croissance des endives et la production d'un téléphone portable? Nous, a priori, rien à voir. Eh bien, je pense que c'est un a priori qu'il faut balayer, qu'il faut apprendre à ne pas négliger trop vite qu'il y a un rapport que je vais peut-être apprendre à bien gérer, parce que c'est pas évident de bien discerner comment faire une industrie qui réponde aux critères de la pensée sociale de l'Église. Ben, vous posez action tous les jours. Et bien si la connaissance de la nature et de son fonctionnement propre nous aidait à fabriquer mieux, différemment, des téléphones portables. Je pense que c'est une chose à pas écarter d'emblée. Même si ça paraît à première vue un peu distant, quoi. En effet, toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration. Et tous, en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres. Chaque territoire a une responsabilité dans la sauvegarde de cette famille et devrait donc faire un inventaire détaillé des espèces qu'il héberge afin de développer des programmes et des stratégies de protection en préservant avec un soin particulier les espèces en voie d'extinction. Pourquoi je fais le lien, j'essaie de faire le lien entre ce qui est purement biologique et ce qui est purement industriel, et ce qui, pour nous, peut-être, n'a pas grand-chose à voir. Je fais le lien parce que notre travail ne peut pas être autre chose que cette mission confiée par Dieu. Nous travaillons parce que Dieu nous a confié cette mission, d'accompagner la création dont nous vivons. Ça veut dire que, quel que soit notre travail, ce n'est qu'une manière d'être responsable de la création qui nous est confiée. Donc produire des téléphones portables, si c'est notre travail, ça ne peut être, pour être dans le plan de Dieu, qu'une manière d'accompagner la création qui nous est confiée. Si cette création qui nous est confiée, qui à la base n'est pas un téléphone portable, mais est la nature qu'on connaît, ça veut dire qu'il faut refaire ce lien. Il ne faut pas que notre travail soit déconnecté de ce seul travail que nous avons à faire, de prendre soin de la création de Dieu. Le seul travail que nous avons à faire, ça me marque depuis un peu de temps, le seul travail que nous avons à faire, c'est prendre soin de la création de Dieu. C'est pour ça que nous travaillons. Le travail est donné à l'homme en tant qu'il est une participation à la création, à l'œuvre de Dieu. Tout le reste, tout ce qui n'est pas ça, ne doit pas être notre travail. Dans notre travail aujourd'hui, il y a plein de choses qui n'ont rien à voir peut-être avec un accompagnement quelconque de la création, mais qui est un truc qu'on s'est rajouté, voilà, en termes de quantité, en termes de pression, en termes de produits qui ne servent à rien, qui sont complètement déconnectés du donné de base, quoi. Voilà. Donc, réapprendre à faire ce lien entre le donné de base et le travail que je fais, ou que je voudrais faire, ou que je pourrais faire, est-ce que ça va en harmonie? Est-ce que ça a du sens? Ben, ça peut être une ligne de critères, voilà, qu'il faut apprendre à utiliser peut-être. Grand 4, détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale. Donc là, on commence déjà à faire le lien avec une intégralité donc, de l'écologie, que évidemment aujourd'hui c'est frappant. Maintenant c'est frappant, donc ça nous saute aux yeux que toute dégradation de l'environnement implique une dégradation sociale. Voilà. Implique de la pauvreté, implique de la malnutrition, implique des maladies, implique finalement des guerres, etc. Donc on a un impact immédiat entre une crise environnementale et une crise sociale. Voilà. Ça apparaît, c'est pas nouveau en soi, mais ça nous apparaît fortement aujourd'hui. Donc on en prend davantage conscience. L'environnement humain et l'environnement naturel se dégradent ensemble. Nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation de l'environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. Ça, c'est le numéro 48. Voilà. Tout ça qui engendre des inégalités, de la pauvreté, etc., de la précarité, on le voit, on peut pas la peine de vous faire un topo, un inventaire de ça. On le voit bien, mais aujourd'hui, on ne peut pas... Encore une fois, nous chrétiens, par exemple, traiter à la légère la question de l'environnement, puisqu'elle implique immédiatement la question « qu'as-tu fait de ton frère ?» Puisque un tas de populations subissent aujourd'hui un système pour lequel elles ne sont rien. Voilà, on peut citer de manière évidente les pays d'Afrique, tous ceux qui sont maintenus à un niveau de pauvreté, qui ont des richesses naturelles, mais qui ne sont pas du tout aidés à en profiter et qui en fait subissent un système imposé par ceux qui ont en main l'économie. Voilà. Vous connaissez tous ces sujets-là. Mais... Mais on doit se laisser interpeller par cette proximité entre crise environnementale et crise sociale. Nous sommes responsables de nos frères. Ça passe par une responsabilité commune sur le climat, la biodiversité, les zones humides et tout ce que vous voulez. Les forêts. Je vais quand même prendre des notes. Ce que le pape fait remarquer aussi, dans le grand 5 du premier chapitre, grand 6, pardon, c'est la faiblesse des réactions. Il est dur, là, le pape François, à plusieurs occasions, contre les sommets, contre les G machin, contre les politiques, contre. Enfin, qui dit, grosso modo, ça sert à rien, vos trucs, quoi. Aujourd'hui, il n'y a à peu près rien de conséquent qui se fait suite à ces multiples rassemblements d'hommes politiques, de chefs de gouvernement, etc., quoi. Grosso modo, ça couche de rien, quoi, ou d'une souris. Donc il est un peu dur là-dessus. Ce qui veut dire qu'en fait, la solution à des problèmes techniques, ce ne sera pas des solutions techniques, quoi. Ça va être des solutions spirituelles. Ça, c'est le message un peu. Faiblesse des réactions. Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père, pour que notre planète soit ce qu'il a rêvé en la créant, et pour qu'elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. Le problème est que nous n'avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à cette crise. En fait, on est largement dépassé par l'ampleur de la crise. Il y a des prises de conscience, il y a des réactions, il y a des gens qui réagissent à différents niveaux, mais on n'a pas la culture encore pour réagir, vraiment. Ou elle est très, très parcellaire, très parsemée. Il faut construire des leaderships qui tracent des chemins en cherchant à répondre aux besoins des générations actuelles, comme en incluant tout le monde sans nuire aux générations futures. Numéro 54. La faiblesse de la réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle dans l'échec des sommets mondiaux sur l'environnement. Voilà, ben non, les gars, échec. Vous n'avez rien fait. Et pourquoi ? Parce que vous êtes esclaves de la politique, de la technologie et de la finance. Voilà. Tant que ce sera le cas, eh ben, il ne pourra pas y avoir de décision prise à l'échelon national, par exemple, ou plus. Il y a trop d'intérêts particuliers, et très facilement l'intérêt économique arrive à prévaloir sur le bien commun et à manipuler l'information pour ne pas voir affecter ses projets. Voilà, donc il critique quoi ? Il critique la faiblesse morale. Il ne critique pas l'intelligence, il ne critique pas la mauvaise prise de conscience. On l'a. Qu'est-ce qui manque ? Il manque un courage moral, un courage d'homme et de femme, je dirais un courage intérieur. Voilà pour ce que je disais avant, il n'y a pas de frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous permettent de nous isoler. Et pour cela même, il n'y a pas non plus de place pour la globalisation de l'indifférence. Tout est lié. Une phrase que j'ai notée aussi, à la fin du premier chapitre. Si le regard parcourt les régions de notre planète, il s'aperçoit immédiatement que l'humanité a déçu l'attente divine. Voilà, Dieu nous a confié quelque chose. Aujourd'hui, si on fait le constat de l'état dans lequel nous avons mis la création, eh ben on baisse un peu la tête, quoi. Et nous, chrétiens, on doit se sentir interpellés par ça. Même si c'est pour tout le monde, ceux qui croient en Dieu, en tout cas, ceux qui croient que l'humanité a en charge la planète, et plus même, eh bien, il doit se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de ce que Dieu m'a confié ? Voilà un petit peu l'enjeu de cet étalage, un peu, qu'on connaît, un regard scientifique, mais en fait, qui est appelé à préparer un regard de foi sur la création, et puis une conversion personnelle. Ouais. Deuxième chapitre, l'évangile de la création. Donc là, pour le coup, il va adresser un discours plus chrétien. Il commence comme ça, numéro 62. Pourquoi inclure dans ce texte adressé à toutes les personnes de bonne volonté un chapitre qui fait référence à des convictions de foi ? Je n'ignore pas que dans les domaines de la politique et de la pensée, certains rejettent avec force l'idée d'un créateur, ou bien la considèrent comme sans importance, au point de reléguer dans le domaine de l'irrationnel la richesse que les religions peuvent offrir pour une écologie intégrale et pour un développement plénier de l'humanité. Donc il est conscient que ce n'est pas immédiat pour tout le monde qu'il puisse y avoir un discours de foi sur les questions d'environnement. Donc il explique la lumière qu'offre la foi. Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses multiples causes, nous devrons reconnaître que les solutions ne peuvent pas venir d'une manière unique d'interpréter et de transformer la réalité. C'est tellement complexe comme problème que grosso modo il faut faire appel à tout ce qui existe dans le monde comme moyen de réflexion. Il est nécessaire d'avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples, à l'art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité. Tout ça, tous ces domaines-là ont leur mot à dire sur notre environnement. Si nous cherchons vraiment à construire une écologie qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit, alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse ne peut être laissée de côté. La sagesse religieuse non plus, avec son langage propre. De plus, l'Église catholique est ouverte au dialogue avec la pensée philosophique, et cela lui permet de produire diverses synthèses entre foi et raison. Donc il justifie un petit peu la présence du discours religieux, qui n'est pas à disqualifier du tout. Et dans une deuxième partie, il va parler des récits bibliques. Voilà, les récits bibliques qui fondent un petit peu la réflexion sur cette pensée écologique intégrale. Numéro 65, la question de la dignité de la personne humaine, d'après le récit de la Genèse, fondement aussi de la relation entre l'être humain et le monde. Dans la Genèse, grosso modo, on a le récit de la création, vous savez. Et ce récit de la création, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit que la création a été faite en 6 jours ? Non, il ne dit pas ça. Il ne le dit pas pour ça. Ou du moins, ce n'est pas les jours, enfin peu importe. Ce que ça dit davantage, où se trouve ? Ce que Dieu veut dire à travers ce récit de l'Écriture sainte, ce que nous savons surtout sur la création, c'est qu'elle est créée par Dieu. Et donc il y a un lien entre la création et un créateur. Que Dieu a confié la création à l'homme, donc il y a un lien entre l'homme et la création. Et en particulier, il y a un lien entre l'homme et Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Voilà. Donc ce qu'il y a de fondamental pour nous dans cette conception chrétienne de la création, c'est la notion en fait de relation. La création est en fait un système de relation entre l'univers créé et le créateur. Et dans cet univers créé, l'homme a une place particulière de relation avec la création, le reste de la création, et avec Dieu, son créateur, qui lui a confié l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante de la théologie de la création, c'est cette idée de relation. Ces récits, chez le numéro 66, ces récits de la création suggèrent que l'existence humaine repose sur 3 relations fondamentales intimement liées. La relation à Dieu, avec le prochain et avec la terre. Donc nous qui croyons à Dieu créateur, je crois en Dieu le Père puissant créateur, nous croyons à cette relation fondamentale qui existe avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Selon la Bible, les 3 relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Cette rupture est le péché. Encore une fois, le pape, direct. Le problème, notre problème, c'est le péché. Donc c'est tant bien que ce soit un petit peu un prêtre qui vous parle de ça quand même. Je suis un peu dans mon rôle, voilà. Pas pour accuser, mais pour faire grandir spirituellement. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de soumettre la terre, de la cultiver, de la garder. Voilà, cette mission confiée par Dieu à l'homme, de soumettre la terre, de la cultiver, de la garder. Mission originelle. Souvent, on pense que le travail, je reviens là-dessus, que le travail est la conséquence du péché, parce qu'on a en tête, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et donc, on pense qu'on galère et qu'on travaille à cause du péché. Non. On travaille dans la peine à cause du péché. Mais le travail lui-même fait partie de la dignité de l'homme à l'origine. Fait partie de la place de l'homme dans le monde à l'origine. Ça veut dire en quelque sorte qu'on va travailler toute la vie éternelle. Ça fait partie de notre dignité. qui va disparaître et côté laborieux, mais ça fait partie de ce qu'est l'homme d'être le co-créateur de Dieu, avec Dieu. C'est pas négligeable ça. Voilà. L'aspect peineux vient comme conséquence du péché, mais à l'origine, le travail est présent. Comme résultat, la relation harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue conflictuelle. Pour cette raison, il est significatif que l'harmonie que vivait saint François d'Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une guérison de cette rupture. Finalement, l'œuvre de la rédemption, grâce au Christ, on connaît tout réconcilié avec le Christ, remettre tout sous un seul chef, le Christ. Finalement, le Christ, c'est lui qui œuvre la rédemption qu'on pourrait qualifier d'écologique intégrale, quoi. Le Christ réconcilie l'homme avec Dieu, les hommes entre eux, et nous avec la nature aussi, etc. Donc là, la rédemption intègre tout ça. Et saint François d'Assise nous apprend, nous ouvre un chemin aussi pour découvrir comment ce rapport à la création est une forme de guérison à recevoir. La question de dominer a posé des questions. Parfois, nous, les chrétiens, sommes accusés d'être les auteurs, en fait, de la dégradation de l'environnement. Parce que vu que Dieu a dit « dominer la terre », tout ce qui est le libéralisme à outrance et compagnie, en fait, c'est à cause de la Bible. Voilà, donc le pape réagit quand même. Numéro 67. « Attention à la juste interprétation de dominer. Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte et avec une herméneutique adéquate. » Et de se souvenir qu'il nous invite à cultiver et garder le jardin du monde. Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. La plupart, plus tard, il parlera de l'homme comme étant au service, l'homme domine comme serviteur. Ce qui est vrai partout. Le Christ règne en étant serviteur. C'est le plus grand d'entre vous qu'il soit le serviteur de tous. Donc, nous devons entendre, nous voulons entendre, dominer la terre comme étant soyez au service de la terre. Mais on nous fait procès, bah, parfois à juste titre, nous ne sommes pas sans péché à ce niveau-là, mais on ne peut pas accuser en tout cas le récit biblique de nous inviter à ça. Il y a la question de la destination universelle des biens aussi. Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue. Voilà. La terre ne sera pas vendue, ça c'est dans le Lévitique, la terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, dit Dieu, et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Voilà. Donc on a tout un ensemble de textes bibliques qui nous permettent de comprendre cette mission de domination et de soumission de la terre comme un service. Parce qu'au final, le seul propriétaire, c'est Dieu. Nous sommes les intendants de ce qui appartient à Dieu. Nous nous apercevons donc que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures. C'est le procès qui nous est fait parfois, et c'est un piège dans lequel on peut tomber. À force de dire que l'homme a une grande dignité, que l'homme est chef de la création, que tout ça, finalement, a justifié une mauvaise gestion de l'univers. Voilà, en fait, on ne peut pas se justifier de ça. Dans le récit concernant Caïn et Abel, nous voyons que la jalousie a conduit Caïn à commettre l'injustice extrême contre son frère, ce qui a provoqué à son tour une rupture de la relation entre Caïn et Dieu et entre Caïn et la terre dont il a été exilé. Voilà. Ça, c'est le numéro 70, on poursuit la réflexion à partir des récits bibliques qui montrent comment c'est le péché de l'homme qui progressivement a détruit l'harmonie de relation entre donc Dieu, l'environnement et les hommes entre eux. La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres et avec Dieu et avec la terre. Vous voyez comment, en cascade, le fait de mal traiter son frère, Caïn et Abel, entraîne une destruction de la relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu, avec la terre. C'est les conséquences immédiates. Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. Tout est lié dans les conséquences, donc aussi dans la rédemption. Et donc le danger sur un des éléments de ça, Le danger, enfin, tout ce qui affecte la relation à Dieu va affecter la relation avec la terre. Tout ce qui affecte la relation avec la terre va affecter la relation avec Dieu et avec les autres. Voilà, tout ce qui affecte une des dimensions de notre vie va affecter l'ensemble. Dans ces récits si anciens, empreints de profond symbolisme, une conviction actuelle était déjà présente. Tout est lié. Tout est lié, c'est un peu le refrain qu'on entend dans toute l'encyclique. Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Donc on commence à approcher ce que signifie l'expression écologie intégrale. On ne peut pas traiter un problème sans l'autre. On ne peut pas dire qu'on va résoudre l'ensemble en s'attaquant à un problème. Il faut considérer que tout va être lié. Il faut aussi un regard d'espérance. Ça, c'est parce qu'on peut se laisser facilement décourager par cette situation décrite sans complaisance. Donc le pape aussi cherche les moyens de nous encourager. Notamment, c'est l'espérance. La captivité à Babylone, autre expérience importante du peuple hébreu, dans la Bible, la captivité à Babylone, puis la domination de l'Empire romain, ont été des occasions de grandir dans la confiance en Dieu Tout-Puissant. Voilà. Grandir dans la confiance en Dieu Tout-Puissant, ça fait partie de l'expérience spirituelle que nous avons. Savoir que la justice n'est pas invincible. Nous pouvons... Dieu reste propriétaire et maître de tout ça. Dieu gouverne encore sa création. Dieu reste le créateur. Quoi qu'il arrive. Donc nous devons aussi nous appuyer sur cette espérance que nous avons, sur cette foi que nous avons. Et enfin, 75, nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu Tout-Puissant et Créateur. Autrement, nous finirions par adorer d'autres pouvoirs du monde. Ou bien nous nous prendrions la place du Seigneur au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui sans connaître de limites. La meilleure manière de mettre l'être humain à sa place et de mettre fin à ses prétentions d'être un dominateur absolu de la terre, c'est de proposer la figure d'un Père créateur et unique maître du monde, parce qu'autrement l'être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts. Ça, il faut l'entendre aussi pour nous, qu'il faut grandir dans la foi en Dieu créateur. Et ben oui, ben c'est évident, nous on y croit, c'est le premier article du credo, je crois en Dieu tout-puissant créateur. C'est une évidence pour nous. Mais est-ce que c'est une évidence que nous en vivons ? Est-ce que, existentiellement, nous vivons d'une relation à Dieu comme tout-puissant et créateur ? Est-ce que ça fait partie de la manière dont nous sommes en relation avec Dieu ? Une question. Ouais. Dieu est Père, tout-puissant, créateur. Est-ce que le créateur, c'est pour nous une information ou un rappel de quelque chose de l'origine ? Ou est-ce que ça devrait pas être plutôt un rappel qui caractérise notre vie chrétienne, notre rapport à la création, notre rapport à Dieu, notre rapport les uns avec les autres. Grand 3, dans ce deuxième chapitre, le mystère de l'univers. J'ai une équation à vous proposer. Création égale nature plus don. C'est le numéro 76. Je vous traduis un peu à ma manière. On aurait tendance à réduire la nature à la création, en fait. La nature, c'est tout ce qui s'analyse, tout ce qui s'expérimente, tout ce qui s'étudie, etc. Tout ça, c'est la création. Est-ce que c'est vraiment que ça, la création ? La création, c'est la nature, plus don. C'est regarder cette nature comme un sujet éventuellement d'expérimentation et de science et tout ce qu'on veut. Mais... avoir un rapport à cet univers en tant que création, c'est la recevoir comme un don. C'est dire qu'elle a un rapport avec un créateur. C'est dire qu'elle est là parce que quelqu'un nous l'a donné. Quelqu'un nous a mis en présence de cette création. Donc c'est pas seulement l'idée qu'il y a une nature qui existe, mais c'est qu'elle est une nature avec une relation. C'est une relation de don en particulier. Donc création égale nature, tout ce qui s'analyse, plus le don. Réalité illuminée par l'amour, il nous appelle à une communion universelle. Si je regarde la création que comme nature, en fait, je réduis énormément ce qu'est la création. Si je regarde la nature et qu'en plus, je la regarde comme un don de Dieu, dit le pape, réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle, alors j'ai vraiment un rapport avec la création en tant que telle. La création n'est pas que de la nature, la création est de la nature dans un environnement, un don, enfin une ambiance, je ne sais pas comment dire toutes les choses, de don, de relation, de confiance. Création égale nature plus don. La création est de l'ordre de l'amour. Vous dites ça à un écolo, il regarde, non, la création c'est de l'ordre des animaux qui vont bien, etc. Enfin, non, la création est de l'ordre de l'amour. L'amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création. Voilà. On ne peut pas, nous, avoir un regard réduit sur la création en disant ben, c'est la nature. Non. C'est quelque chose qui nous dit quelque chose de Dieu. Un retour à la nature engage tout l'être humain. Il ne s'agit pas juste d'aller planter la tente et d'aller faire du fromage de chèvre. Un retour à la nature engage plus que ça, plus qu'un mode de vie physique, ça engage aussi sa vie spirituelle. Les vrais écolos sont les saints. C'est ce que ça veut dire. Un retour à la nature ne peut se faire au prix de la liberté, de la responsabilité de l'être humain qui en fait partie, qui fait partie du monde, pardon, avec le devoir de cultiver ses propres capacités pour le protéger et en développer les potentialités. Donc le pape continue à remettre en cause une certaine forme de pouvoir et de domination. On l'a déjà vu, c'est le numéro 82. Et au numéro 83, il explique aussi « L'aboutissement de la marche de l'univers. » L'univers est en marche, c'est intéressant à entendre aussi. Il y a une évolution, il y a un but. « L'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. » Là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris cette phrase-là. Que l'aboutissement de la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu qui a été atteinte par le Christ ressuscité. Bon, nous, on peut le comprendre encore à force de le lire deux, trois fois, là. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû lire ça. Quoi il parle, quoi. Ouais. Nous ajoutons ainsi un argument de plus pour rejeter toute domination despotique et irresponsable de l'être humain sur les autres créatures. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, mais elles avancent toutes avec nous et par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. Voilà. Et bien là, on est exactement dans le sujet de Monligeon. Enfin, que Monligeon voudrait en tout cas mettre un peu en exergue ce lien entre les fins dernières et notre travail sur la terre. Le travail, c'est d'accompagner la création dans son achèvement dans l'éternité, finalement. Donc il y a vraiment on a du boulot, et je crois qu'on le fasse ensemble un peu, pour mettre en évidence ce lien entre la destinée ultime de l'homme et éternelle, et la boue dans laquelle nous sommes, qui rappelle que nous sommes matériaux. C'est la conclusion d'ailleurs le dernier mot de l'encyclique. C'est marrant. Bon, je sais plus où c'est. Je crois que c'est le dernier mot. Ça doit être exactement le dernier mot. Mais bon, ça finit sur l'idée que... Non, c'est là-dedans, en fait. Dans le texte de Monseigneur Battu. Il serait vain et suicidaire de vouloir préserver la nature en poursuivant le rêve prométhéen d'échapper à notre condition naturelle. Jamais Adam ne sauvera la terre s'il oublie que son nom signifie le terreux. Il ne s'agit pas de faire un homme qui soit plus soumis à la nature, transhumanisme et compagnie. Le seul moyen pour nous de sauver la terre, c'est de se rappeler qu'on est de la terre. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Ça, c'est important. Voilà. Grand 4, le message de chaque créature dans l'harmonie de toute la création. Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Je ne sais plus. Peut-être passer dessus parce que le temps passe de toute façon. Mais je n'ai pas souligné grand-chose, donc on passe. Grand 5, une communion universelle. Communion universelle, c'est important, l'idée de bien commun, de solidarité, de tout est lié. Numéro 89, les créatures de ce monde ne peuvent pas être considérées comme un bien sans propriétaire. Tout est à Dieu. D'où la conviction que, créés par le même Père, nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille spirituelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Mais des énormes inégalités qui existent entre nous devraient nous exaspérer particulièrement. C'est vrai, c'est intéressant cette réflexion, ça devrait nous exaspérer particulièrement. Parce que nous continuons à tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres. C'est là, au final, on est habitué à cette inégalité, hémisphère nord, hémisphère sud et compagnie. Enfin, finalement, on galère, quoi. Je trouve ça intéressant de dire on devrait être exaspéré de ça, nous. On ne devrait pas supporter que ce soit comme ça. Parce que ça contredit notre relation à Dieu. Si on a compris que notre relation à Dieu, elle est dite en quelque sorte par le rapport qu'on a les uns avec les autres, on devrait être particulièrement inquiet de cette situation, quoi. Moi, je ne suis pas particulièrement, pour l'instant, porté à... encore une fois, parce qu'on a trop... peut-être trop, et j'en suis... moi, j'ai pris un peu mon parti, quelque part. Trop séparé, les chrétiens engagés dans le social et les chrétiens engagés dans le spirituel. Et moi, peut-être un peu comme vous, peut-être, je suis davantage issu de la branche spirituelle. Voilà. Mais je me laisse questionner, je me laisse interroger par le pape. Les énormes inégalités qui existent entre nous devraient nous exaspérer particulièrement. Finalement, est-ce que c'est bien sain dans les deux orthographes possibles? Est-ce que c'est bien sain qu'on soit autant habitué que ça à cette situation? Paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument liés. Voilà. Aujourd'hui, on trouve des gens qui sont vachement à fond sur la paix, qui militent pour la paix, etc., qui sont contre la guerre et tout ça. On trouve des gens un peu les mêmes pour la justice. On trouve d'autres qui sont à fond pour la sauvegarde de la création. On ne trouve pas grand monde encore qui a compris que tout ça, ça va ensemble. Voilà. Et c'est ça que le pape veut nous faire comprendre. Paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument liés, qui ne pourront pas être mis à part pour être traités séparément, sous peine de tomber de nouveau dans le réductionnisme. Ça, c'est le numéro 92. Bon, on est déjà en retard pour les lettres. Ça finit. La destination commune des biens, grand 6. Par conséquent, toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. Le principe de subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et par conséquent le droit universel à leur usage est une règle d'or du comportement social. Premier principe de tout l'ordre éthico-social. Je vais revenir à faire tout un sujet sur la destination universelle des biens, les biens communs, etc. Par conséquent, il n'est pas permis, parce que cela n'est pas conforme au dessein de Dieu, de gérer ce don d'une manière telle que tous ses bienfaits profitent seulement à quelques-uns. Cela remet sérieusement en cause les habitudes injustes d'une partie de l'humanité. Voilà, il termine, grand 7, le regard de Jésus. Enfin, comment Jésus se situe dans la création? Jésus par rapport à son Père, numéro 96. Numéro 97, Jésus attentif à la beauté du monde, dans l'évangile, il y a plusieurs fois Jésus qui s'émerveille, qui parle de la création, des végétaux, des oiseaux du ciel, des arbres, etc. Jésus attentif à la beauté du monde. 98, Jésus vivait en pleine harmonie avec la création, pas de dépréciation de la matière. Il a travaillé la matière en tant qu'artisan. Voilà, c'est important aussi. 99, pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l'origine de toutes choses. Donc on a aussi, nous, à s'interroger comment le mystère du Christ va nous parler de tout ça. La parole créatrice s'est faite chair. Dieu a tout créé par sa parole, et cette parole s'est faite chair, c'est le Christ. Je ne l'apprends pas, mais ça doit intervenir quelque part dans notre rapport à cette écologie intégrale. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé en y liant son sort jusqu'à la croix. Le Fils, le Verbe, s'est fait chair et est mort pour nous sur la croix. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Voilà, un regard de foi sur le monde, on a eu un regard scientifique, un regard de foi sur le monde, c'est aussi... avoir sur ce monde un regard qui sait, qui connaît l'œuvre du Christ dans ce monde, qui opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle sans pour autant en affecter l'autonomie. Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa seigneurie universelle. Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Numéro 100. On a fond dans la Semaine Sainte. Ce que nous allons vivre dans la Semaine Sainte, c'est la solution au problème d'écologie intégrale. Cela nous projette à la fin des temps, eschatologie, fin dernière, mon livre, version spirituelle. Cela nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au Père et que Dieu sera tout en tous. De cette manière, les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même la fleur des champs, les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux, enfin, c'est trop vite. Même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Si fini, un peu dans l'urgence. Le premier topo, sur les deux premiers chapitres, un regard scientifique qui engage déjà la question morale et donc aussi la foi, et puis un regard de foi qui va jusqu'à regarder la destinée ultime de la création et qui travaille à établir le lien entre tout ce qui nous préoccupe, aussi bien une préoccupation spirituelle, très spirituelle, qu'une préoccupation très matérielle. Voilà, tout ça, nous devons apprendre à avoir l'unité en tout ça. Voilà un peu le message. Voilà, je ne peux pas tellement vous proposer de prolonger, sinon je serais en faute par rapport à la possibilité que vous avez de participer aux Vêpres, qui ont commencé a priori, juste en dessous. Voilà, ceux qui veulent y aller, n'hésitez pas, évidemment, à vous intégrer discrètement. Et on se retrouve après les Vêpres, je crois, à 18h15, c'est ça ? Voilà.